C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur, Eric Ambler. Romancier, scénariste. 1909-1998. Britannique, hétérosexuel. Œuvre, L'affaire Deltchef, Judgment on Deltchef. Roman, 1951. Première traduction française, en 1979. Personnage, Jordan Deltchef. Après la Deuxième Guerre mondiale, des pays jusque-là d'Europe centrale sont devenus des pays de l'Est. Ils étaient passés sous l'influence d'une puissance semi-orientale, l'URSS. Semi-orientale et mystérieuse. Churchill était un anticommuniste maniaque et d'un talent oratoire certain, et le jour de 1946, où dans un discours aux États-Unis, il a inventé la métaphore du rideau de fer, il n'a pas eu tort. Sur ce qui était devenu un là-bas, plus de reportages, plus de journalistes, très peu de voyageurs et tous autorisés, enfin personne pour nous dire ce qui s'y passait. Il ne restait que la fiction. Sont alors apparus deux types de romans, les romans non sérieux et les romans sérieux. Parmi les romans non sérieux, bien des romans d'espionnage. Parmi les romans d'espionnage les plus ou moins supportables, quoique ennuyeux, comme ceux de John le Carré, et les insupportables, quoique éventuellement amusants, comme ceux de Gérard de Villiers. Supportables ou insupportables, ils ne nous apprenaient rien sur ces pays, et tout sur leurs auteurs, par exemple la vulgarité de Gérard de Villiers. Parmi les romans sérieux, nous avons eu, tout de suite après la guerre, des livres écrits par d'anciens communistes qui mettaient toute l'explication des choses dans l'idéologie, je pense au Zéro et l'Infini d'Arthur Kessler, et des romans écrits par d'anciens compagnons de route mais moins passionnés qui mettaient toute l'explication dans la tactique et les luttes pour le pouvoir, je pense à l'excellente affaire Deltchef d'Eric Ambler. Pour avoir une idée exacte, il faudrait peut-être ajouter du machiavélisme à Kessler et de l'idéalisme à Ambler. L'affaire Deltchef a été publiée en 1951, peu d'années auparavant. Les soviétiques et leurs alliés avaient purgé les gouvernements de l'Est des politiciens qui n'étaient pas assez soumis. 1948, Gomulka en Pologne, Patrascanu en Roumanie. 1949, George en Albanie, Kostov en Bulgarie et Reich en Hongrie. Le titre anglais de l'affaire Deltchef, Jugement de Deltchef, dit plus exactement ce que c'est. Le procès, pendant quelques jours de l'après-guerre, l'année n'est jamais précisée, dans un de ces pays soviétisés, il n'est jamais nommé, d'un dirigeant du gouvernement, Jordan Deltchef, jugé pour trahison. Le récit est fait par un auteur de théâtre anglais, engagé par un journal pour couvrir le procès. Une chose qui frappe à la lecture du livre, c'est la différence avec le fascisme. Les communistes, eux non plus jamais nommés, on parle d'un parti du peuple, organisent un procès truqué, mais il y a procès. Les soviétiques étaient ou complexés ou hypocrites, mais ils faisaient semblant de suivre l'idéalisme judiciaire occidental. Les fascistes ne s'en sont jamais encombrés. La brutalité ostensible et le mépris de toute règle étaient la méthode par laquelle ils terrorisaient. Et cela les servait, car la brutalité rend la fiction presque impossible. 300 pages à montrer des coups de nerf de bœuf. Qui est Jordan Deltchef? Pour en parler, je reçois François Rivière, écrivain et critique, auteur récemment d'épitaphe pour Alfred Hitchcock chez Payot, et qui a publié aux Humanoïdes Associés, au début des années 1980, 9 romans d'Eric Ambler. François Rivière, avant de chercher à savoir qui est ce Deltchef, je voudrais que vous nous présentiez l'excellent romancier qu'est Eric Ambler et qui n'est peut-être pas assez connu.
Oui, je crains que Eric Ambler, dont l'aura a été assez grande, assez forte dans les années, à partir des années 40, dans les pays anglo-saxons, et grâce notamment à son grand fan Alfred Hitchcock, qui a écrit, je crois que la seule préface écrite de la main d'Hitchcock est celle d'une trilogie de romans d'Ambler publiée aux États-Unis en 43. Eric Ambler, qui a réinventé complètement le roman d'espionnage juste avant la guerre, parce qu'il a commencé à écrire en 1937. Ambler n'a pas eu de chance en France. Il a été traduit pas mal, un peu partout, chez plein d'éditeurs.
Dès avant la guerre?
Déjà, le premier, le livre qu'on considère comme son chef-d'œuvre, Le Masque de Dimitrios, a été traduit pendant la guerre chez un obscur éditeur et n'a connu aucun succès. Ambler était absolument pas connu en France à ce moment-là. Et puis après la guerre, bon, ses romans sont, à quelques exceptions près, ont été traduits année après année, parce qu'il a quand même écrit pas mal, chez différents éditeurs, mais sans jamais accrocher un public français, même si on lui a décerné un prix de littérature policière. Bon, tout ça, c'était vraiment pour le happy few. Et je dirais qu'on a attendu la fin des années 70 pour essayer...
Oui, c'est vos publications, du Madrid Associé.
De remettre un peu de lustre à ça. Moi, j'étais passionné déjà d'Ambler, mais dont j'avais lu les livres traduits, tout simplement, et puis certains livres anglais... non traduit et que on s'est empressé de faire traduire aux humanoïdes associés. Le succès n'a pas été énorme non plus, mais tout de même on a réussi à intéresser, je pense, un spécialiste de Monterland qui s'appelait Pierre Cipriot, qui est tombé littéralement amoureux des romans d'Ambler et qui a vu une émission de télévision en 78 sur cet écrivain inconnu pratiquement du grand public français, qui était d'ailleurs venu à Paris lui-même pour la promotion du dernier roman en date, qui était « N'envoyez plus de roses », qui a eu un petit succès quand même, un succès d'estime.
Vous parliez de Hitchcock, je crois qu'il a eu pour deuxième épouse quelqu'un qui a à voir avec Hitchcock.
Oui, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un rapport, une relation un peu bizarre, un peu tordue même, je dirais, entre Hitchcock et Ambler. Parce qu'Hitchcock est tombé effectivement très fan, très vite des romans d'Ambler.
Qui était anglais, il faut le rappeler,
oui,
si besoin.
Oui, qui est un londonien, qui n'a jamais mis en scène Londres dans ses romans, d'ailleurs, parce qu'il détestait sa ville natale. Mais Hitchcock donc aimait beaucoup les romans d'Ambler, il les trouvait déjà très cinématographiques. C'est ce que pensait d'ailleurs aussi Graham Greene. Il se trouve que lorsqu'il est parti à Hollywood pour écrire pour le cinéma, même si ça n'a pas donné grand-chose, Ambler a fait la connaissance de celle qui avait été longtemps la secrétaire d'Hitchcock, la collaboratrice de la femme d'Hitchcock qui était scénariste, et la productrice de la fameuse série Alfred Hitchcock présente, qui s'appelait Joan Harrison, et il est tombé amoureux, et ils se sont mariés. Et Hitchcock était très furieux, parce que lui qui promettait régulièrement à Ambler de adapter un de ses romans, ce qui n'est jamais arrivé, il était très possessif et a pas trop supporté ce kidnapping.
Est-ce que Ambler a écrit des films notables à Hollywood?
À Hollywood, il n'a pas fait grand-chose, sinon que constater que le manuscrit de son dernier roman avait brûlé pendant un incendie qui avait ravagé Beverly Hills. Il avait adapté La mer cruelle de Nicolas Montserrat, mais ça c'était en Angleterre quand il a fait du cinéma, notamment du cinéma de propagande pendant la guerre. Mais à Hollywood, non, comme pour beaucoup d'écrivains, ça n'a rien donné. Et ses romans, certains de ses romans avaient été adaptés, notamment Le Masque de Dimitrios. Orson Welles s'était aussi intéressé à ses livres, mais bien avant. Et au fond, alors que beaucoup de romans d'Ambler auraient pu être adaptés à l'écran, dans les années 70, 80 même, ça n'a rien donné.
Alors, les Anglais, quand on achète tout simplement ces livres dans des librairies en Angleterre, ils sont classés dans les rayons thrillers, qui n'a pas tout à fait la même acception qu'en France, mais qui de toute façon me paraît assez réducteur, parce que ce sont des romans non seulement virtuoses, mais aussi très bien écrits, sans parfois le tape à l'œil que peut avoir que peuvent avoir les thrillers qui sont faits pour attirer un certain type de lecteur, et au fond, ils n'ont du genre d'espionnage, si on doit employer ce nom, que le genre, que l'air. Ce sont de vrais romans.
Oui, ce ne sont pas vraiment des romans d'espionnage, même si on qualifie toujours d'Ambler de maître, voilà, du roman d'espionnage. Le mot thriller en anglais, bon, c'est un terme assez vague qui a désigné aussi bien des très bons romans, même certains romans de Graham Greene qu'on a appelés comme ça. Enfin, même si on savait que c'était de la littérature, et au fond, c'est plutôt du côté de quelqu'un comme Greene ou d'auteurs moins connus comme Amon Ince ou Neville Shute qu'on peut classer Ambler, qui est vraiment un romancier.
Oui, qui n'a pas
collé le terme littéraire, c'est un peu absurde. C'est un écrivain, tout simplement, quoi.
Tout simplement. Alors, ce qu'il y a d'original, surtout pour l'époque où il a été écrit, c'est que le narrateur de l'affaire Delchef n'est pas un détective, ni un policier, mais je le disais, un auteur de théâtre, un certain Foster, je crois, qui est envoyé par un journal anglais pour suivre le procès.
Oui, et ça, c'est le cas de plein de héros, narrateurs ou non, de personnages principaux des romans d'Ambler, qui sont des gens de la société, non pas du commun des mortels, parce que ce sont toujours des gens quand même qui ont une activité qui est assez proche de celle de d'Ambler lui-même, quoi. Parce que c'est soit un écrivain, un romancier comme Charles Latimer dans Le Masque de Dimitrios, soit Forster dans Delchef, et d'autres qui sont en fait des gens dans lesquels s'incarne complètement l'auteur, et c'est ce qui nous fait partager à travers ces personnages qui tombent dans un espèce de piège terrifiant auquel ils sont absolument pas préparés, parce que ce sont pas des héros de roman. Ce sont des gens qui ont une sensibilité frémissante, qui sont justement des personnages de fiction, mais d'une fiction très très sophistiquée au fond, et qui se trouvent mêlés à un complot, à une histoire terrifiante, qui y a causé complètement kafkaïen hein, dans les romans d'Ambler, et notamment dans celui dont il est question maintenant, parce que justement, ce sont des livres où le héros se perd un peu dans un labyrinthe et a du mal à s'y retrouver, connaît la peur jusqu'au très fond de lui-même. Et on est assez proche de Greene, d'ailleurs, de Graham Greene, sans le côté un peu délirant, un peu fantastique par moments. C'est beaucoup plus réaliste. Il y a quelque chose de très réaliste dans la fiction d'Ambler qui persiste jusqu'au bout d'une certaine manière. Et c'est ce qui fait, je crois, sa marque de fabrique. Enfin.
Alors, à quoi ressemble physiquement ce Deltchev dont nous allons parler ?
Mais Deltchev, tel qu'il apparaît dans le prétoire, quoi, au début de son procès, au premier jour du procès auquel assiste Foster, donc l'anglais qui est censé écrire sur lui, apparaît comme un petit bonhomme de 60 ans, aux cheveux blancs, assez anodin physiquement. D'ailleurs, Ambler le décrit à peine.
Assez peu,
ouais. Oui, c'est vraiment une espèce de silhouette, sinon que subitement. Alors qu'il est resté assez amorphe pendant une partie de cette première audition, subitement, Foster, justement, le héros, voit que les mains de Deltchev tremblent. Et Deltchev lui-même va annoncer, il sort un peu de sa coquille, au milieu de cette espèce de procès qui a une vaste fumisterie, enfin une mascarade épouvantable, annonce qu'il est diabétique et que depuis des semaines, on le prive de son traitement et c'est pour ça qu'il est dans un état épouvantable et du coup, ça jette un froid, même si il est aux mains de gens que ce genre de choses n'impressionne pas beaucoup, quoi.
Alors, il faut expliquer dans cette histoire qui est très, très, très bien menée et pleine de rebondissements, ce qu'a fait Deltchev. Avant la guerre, avant son jugement, qui était-il ?
Deltchev, c'est quelqu'un qui a fait partie d'une espèce de sombre fraternité d'officiers qu'on l'accuse d'avoir mené vers un complot, enfin visant à mettre un terme à la dictature, puisqu'on est en plein dans une dictature militaire. On l'accuse de trahison en fait, mais cette trahison est assez difficile à démêler. Enfin, on a un peu de mal. Enfin, le lecteur, en tout cas, a un peu de mal à savoir ce qui s'est passé exactement. On apprendra au fil du roman que ce qui s'est passé plus ou moins, c'est-à-dire que Deltchev lui-même, à l'intérieur du complot qu'il était censé mener, était lui-même embarqué dans quelque chose de plus, une forme de sédition encore plus terrifiante. Et d'ailleurs, on saura jamais. Enfin. On sait qu'à la toute fin du livre, ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire le pire, évidemment, on l'imagine, sa famille étant elle-même entraînée dans cette affaire, justement.
Mais il faut dire que avant la guerre, il a été membre d'un parti qui s'appelait le Parti agrarien socialiste, qui a été ministre, un ministre obscur, mais quand même qu'il a fait partie d'un mouvement de résistance aux Allemands qui tentait d'envahir le pays.
Alors, il a résisté aux Allemands, il a voulu résister aussi aux Russes, en devenant un pro anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il s'est tourné régulièrement vers les anglo-saxons, puisque on sait après la guerre, le partage qui s'est fait, le partage de l'Europe de l'Ouest, s'est fait entre les Russes et les Américains. Enfin, on connaît l'histoire et Deltchev, lui, étant pro-américain, s'est attiré l'énervement, l'agacement de sa caste, enfin, et des dirigeants de son parti, enfin, et des dirigeants du pays. Mais justement, après, son rôle est devenu un peu plus sombre, un peu plus, difficile à démêler. J'avoue que j'ai pas tout compris dans cette histoire, même si à la fin, on apprend des choses, mais on apprend surtout en quoi, on a été leurré pendant toute l'histoire. Notamment au fil des investigations que mène le narrateur.
Alors, il y a une chose très très simple, c'est qu'il y a un autre parti, donc le Parti agrarien socialiste, qui est une espèce de parti communiste qu'on appelle le Parti du peuple, qui est mené par un certain Voukachine, qui est le chef du gouvernement, et c'est lui qui est supposé devoir être assassiné Deltchev, pardon. Une des choses qui m'a paru frappante, dites-moi ce que vous en pensez dans ce livre, c'est que D'une part, il ne nomme pas le pays, comme je le disais, mais il ne dit pas non plus parti communiste. Il y a une espèce de flou qui, à mon avis, sert beaucoup le roman, parce qu'on ne peut pas dire c'est la Hongrie, c'est la Roumanie, ça devient une espèce de cas d'école, n'est-ce pas?
Bah oui, ce pays, dont on sait seulement qu'il a une frontière commune avec la Grèce, puisqu'on sait qu'il y a un train qui part régulièrement le soir pour qui permet de franchir la frontière vers la Grèce, c'est une sorte de pays complètement factice, enfin qui synthétise un peu tous les pays pendant la guerre se sont comportés de manière plus ou moins étrange, et après la guerre se sont vus dominés par la Russie, enfin, et ont été pris un peu au piège, mais j'avoue que je pense qu'Ambler a voulu en faire les descriptions que fait le personnage, le narrateur de ce pays sont absolument terrifiantes. Enfin, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est entré dans un espèce de no man's land. On est dans ce qui n'est même plus la civilisation occidentale, loin de là, et que tout est fait pour le piéger, lui, comme le pauvre, si on peut dire, Zeltsev lui-même est piégé par un parti qu'il a déserté, un parti qu'il est censé détruire en assassinant le chef du parti, enfin bref, et je trouve, moi, qu'il y a eu, sur le plan purement littéraire, il y a quelque chose de magnifique. Enfin, quand on entre, il y a notamment cette scène fabuleuse de la maison d'Eltchev.
Ah oui, c'est ça. Donc, il y a la maison d'Eltchev, il faut parler de ça, parce qu'il va y rencontrer quelqu'un d'essentiel.
Oui, Forster, très vite, est amené à vouloir connaître un peu plus de choses sur Eltchev, et en l'occurrence, puisqu'il a un guide qui l'emmène, un personnage aussi un peu étrange, dont on va découvrir à la fin qu'il n'est pas exactement ce que Forster croyait, il va vouloir rencontrer la famille d'Eltchev, et notamment la femme de Eltchev, qui est un personnage, alors là, qui est beaucoup plus décrit, beaucoup mieux décrit, qui est finalement beaucoup plus présente que le pauvre Eltchev qui est...
Et pour cause, vous allez nous le dire. Elle est plus présente parce que... Enfin, décrivez-la nous. Donc
oui, parce que c'est une femme d'aspect assez hautain, assez austère aussi, visiblement très intelligente.
Une cinquantaine d'années,
oui, qui va révéler, au fond, assez vite à Forster que c'est elle qui mène les choses, quoi, et que son mari lui doit tout. Lui qui était avocat, parce qu'il faut quand même dire que Eltchev était avocat, c'est elle qui en a fait ce qu'il est devenu. C'est-à-dire cette espèce de pion sur l'échiquier, mais pion important sur l'échiquier de ce pays, qui est toujours un peu étrangement mal perçu. En fait,
on découvre que c'est elle qui gouvernait en réalité.
C'est celle qui dirigeait tout et
elle écrivait même ses discours, nous dit-on.
Oui, c'est vraiment une femme. Oui, c'est un personnage vraiment, c'est un personnage essentiel. De même qu'on va découvrir que le fils aussi est un personnage important. En fait, c'est la famille d'Eltchev qui devient.
C'est ça.
Dont Ambler va faire le portrait, cette famille étrange. Mais ce personnage de l'épouse d'Eltchev, et je trouve surtout le décor, cette maison dans laquelle le narrateur a du mal à entrer, qui est défendue par des espèces de gardes difficiles, avec un mur tout autour de la maison. Je trouve que symboliquement, il y a quelque chose de très beau. Là, je trouve que c'est plus fort que du Graham Greene, quoi, qui a souvent fait aussi un peu ce genre de description très symboliste. Enfin, là, on est dans quelque chose de carcéral, parce qu'étrangement, on est censé assister au procès d'Eltchev, mais on a l'impression que l'accusé, c'est Forster, quoi. C'est le narrateur qui est pris au piège et à qui va arriver quelques ennuis quand même pendant l'histoire.
Nous allons entendre « Bon baiser d'ici », chanson d'Alain Chamfort. « Je suis la ligne du parti, la ligne du parti, la ligne du parti ». C'est extrait de l'album « Secret glacé » de 1983.
« Bon baiser de Russie, de vodka je t'écris, ces mots transis, ces mots d'ici. Ivanovna, je n'ai que toi. » Passé, c'est tout passé.
François Rivière, pour continuer cette histoire de Delchev, ce politicien jugé après la guerre dans ce pays sans nom, il faut préciser, pour finir, que ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'est que la fraternité voulait assassiner Voukachine, qui était le chef du gouvernement, le fils d'Alchev était impliqué, et ça devait se passer au cours d'une parade militaire, et en réalité, il s'agissait pour un troisième de prendre le pouvoir et de mettre la responsabilité sur Delchev. L'attentat a d'ailleurs lieu, et c'est décrit de manière extraordinaire, pour moi c'est un des plus beaux chapitres du livre, là, au moment d'un défilé militaire. C'est une chose très, très frappante. Et pour en revenir à Delchev lui-même, ce qui est frappant, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que c'est un personnage qu'on ne voit jamais agir. Il est toujours passif. On le voit au début dans son box d'accusé. Et il est comme mort d'avance.
Mais il a été piégé et on le voit au milieu du piège. Enfin, c'est vraiment une souris attrapée par le piège avec un jury de gros chats tout autour d'elle qui ne laisseront pas de salut. On a l'impression, oui, que c'est la quintessence du procès politique dans toute son horreur, finalement, Delchev. Et le fait, justement, qu'il soit pas décrit trop, qu'on le découvre à travers sa famille, à travers sa femme, à travers les gens dans son entourage, et à travers des gens qu'il a côtoyés, mais on a l'impression qu'il est noyé déjà, enfin qu'il est perdu, effectivement au milieu de cette espèce de territoire où rien, enfin on lui laisse aucune chance parce qu'il s'est compromis, et en même temps on a l'impression que c'était un idéaliste qui a été vaincu par une espèce de par la raison, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait passer la raison avant les sentiments, dit à un moment Ambler, qui est assez étonnant d'ailleurs, et au fond c'est un intellectuel dans le sens, on l'a beaucoup utilisé justement en parlant des pays de l'Est, enfin un terme qui m'a toujours un peu...
Oui, parce que dans les pays de l'Est, on était dentiste et on était intellectuel.
Oui, c'est un peu étrange. Alors que l'intellectuel, dans le cas d'Alchev, c'est sa femme, justement. C'est elle qui... C'est un cerveau, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une chose assez frappante dans le roman, c'est que le narrateur dit que... juste à la sortie de la guerre, Delchev avait réussi à empêcher le démembrement du pays et qu'il y avait gagné le surnom de Papa Delchev et que c'est ça qu'il a perdu parce que au fur et à mesure du temps, dit Foster, il l'a ressenti comme une accusation, il a perdu confiance en lui-même, ce qui est une analyse psychologique très étonnante.
Oui, c'est-à-dire qu'il a peut-être cru justement qu'il était devenu le petit père du peuple, quoi. Et au fond, c'était pas le sort qu'on lui réservait. Non, mais on a l'impression que c'est un personnage qui, depuis le début, enfin même depuis le moment où le petit avocat qu'il était s'est laissé mettre le grappin dessus par son épouse, tout lui est tombé dessus et finalement il s'en sortira jamais, quoi. Ouais. Alors qu'autour de lui, s'est organisé, réorganisé après la guerre une espèce de pouvoir comme on en a vu, enfin comme on en a connu beaucoup après, notamment en URSS, enfin qui broie tous les idéalistes justement dont il était malheureusement.
D'ailleurs, au cours du procès, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est le procureur pose une question à un policier qui est cité comme témoin. Avez-vous une affiliation politique quelconque ? Non, monsieur, répond le policier. Aucune ? Demande le procureur qui insiste. Je m'intéresse pas à la politique, monsieur, j'ai mon métier à faire. Et le procureur commente. Un excellent citoyen, sans humour du tout. Et ça me paraît la définition même de la dictature. C'est-à-dire, la dictature, c'est quand la politique est réservée à une caste, n'est-ce pas ?
C'est ça, oui, bien sûr. Oui, le citoyen n'a pas le droit de... Il ne fait pas de politique. Il est aux ordres, il est soumis.
Alors, avant la guerre, Ambler avait été antifasciste au point, et vous me contredirez si je me trompe, d'écrire un roman qu'on pourrait presque dire antifasciste, qui est Uncommon Danger, que je crois en français, Au loin le danger. Et puis il a été déçu, je crois, par le pacte germano-soviétique, n'est-ce pas?
Oui, il a été déçu parce que, au fond, enfin, lui, le grand-père le renseignait, il faisait épeler capitaliste. Qui s'est senti une âme de gauchiste, on peut dire, avant la lettre, n'a pas aimé. De toute façon, la politique, enfin, ou les manigances politiciennes ont toujours profondément agacé. Enfin, c'est quelqu'un qui, curieusement, est passé comme auteur, en tant qu'auteur de romans, de thrillers, comme on dit, faute de mieux, pour justement quelqu'un de gauche. Quoi. Or, c'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est quelqu'un qui est fasciné, qui était fasciné par les pouvoirs compliqués, enfin par ces espèces de pouvoirs autoritaires qui régulièrement, et dans ses romans, régulièrement les personnages principaux, les héros sont piégés, que ce soit alors après guerre, c'est dans un peu en Indonésie par exemple, dans les Visiteurs de l'Aube ou après dans des complots, des pures histoires d'espionnage, parce qu'il y a quand même aussi des histoires d'espionnage dans ses romans. Mais effectivement, le pacte germano-soviétique, oui, c'était pour lui, c'était la chose que lui considérait comme un péché, enfin quelque chose qu'il n'aurait jamais fallu commettre. Hein.
Ce qui est frappant dans ce que vous dites, et je crois que c'est exactement ça, c'est que l'affaire d'Elchev, mais au fond probablement tous les romans d'Eric Ambler sont des romans sur le pouvoir et la lourdeur du pouvoir. On sent quelque chose, un poids, quelque chose de très lourd qui chaque fois empèse les personnages et essaie de les plomber positivement.
Oui, c'est plus la liberté, c'est l'asservissement total. Et au fond, c'est plus cette forme d'aliénation là qui a toujours contrarié. Et là aussi, Ambler, il faut remonter après, c'est son enfance, à ce milieu assez bohème dans lequel il est né. Enfin, ses parents qui étaient marionnettistes humains, ce qui est quand même magnifique.
Qu'est-ce que c'est qu'un marionnettiste humain?
Eux-mêmes, c'était des marionnettes humaines qui se produisaient en spectacle à travers toute l'Angleterre. Et après, ils ont formé un groupe de, un groupe de rock. Enfin là, c'était un groupe de chanteurs. C'est un jeune saltimbanque, enfin un fils de saltimbanque, qui au fond toute sa vie a voulu résister à toutes les formes d'asservissement et a montré dans sa fiction justement ce que c'était qu'un homme comme lui, parce que la plupart du temps, ces personnages lui ressemblent vraiment beaucoup, piégé par un pouvoir, par une espèce de des pouvoirs qui sont quelquefois des espèces de sectes, enfin, et pour lui c'était la chose la pire. Alors là encore, on rejoint un peu des choses que Graham Greene a montré dans ses livres,
d'autres. Sauf qu'il n'y a pas la salvation chrétienne comme très souvent chez Graham Greene, que lui c'est vraiment des rapports presque techniques de pouvoir et de force.
Oui, c'était un athée professionnel, Ambler, et effectivement il fallait que les gens s'en sortent de même. D'ailleurs, souvent ses romans se terminent bien pour le héros qui s'en sort, qui met entre lui un lieu maléfique, une frontière, et puis où après avoir découvert que le monde n'était pas absolument pas comme il le rêvait, mais en même temps une fascination pour ça, toujours une fascination pour les gens qui se compromettent et une envie de voir jusqu'où ça mène, jusqu'où la compromission peut mener, quoi.
François Rivière, que vous a appris le personnage de Delchev?
C'est justement que la naïveté de certaines personnes de pouvoir, enfin de gens qui sont fascinés par le pouvoir, peut les mener, jusqu'où ça peut les mener, enfin quel cauchemar ça peut les mener. Graham Greene disait qu'on est toujours un peu trop naïf vis-à-vis de l'arrogance de la classe dominante, qui souvent elle-même est pas du tout à la hauteur de ce qu'on pourrait imaginer, de ce que les braves gens imaginent.
C'était Personnage en personne, le 57e. La semaine prochaine, je parlerai du personnage d'Ivanov créé par Anton Tchekhov dans Ivanov.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin. Attaché de production Daphné Abgral. Prise de son Claire Levasseur. Recherche INA Sabine Dahuron.
C'était un grand jeudi.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.